Voilà, David, chapitre 9, verset 1, David dit « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit « Es-tu Tsiba ?» Et il répondit « Ton serviteur ». Le roi dit « Mais n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit « Où est-il ?» Et Tsiba répondit au roi « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amniel à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amniel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit « Méphibosheth !» Et il répondit « Voici ton serviteur. » David lui dit « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit « Mais qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi et tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs, il dit au roi « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Miché, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. Alors, qui a déjà entendu un message sur ce passage, sur Méphibosheth ? Alors, levez la main que je vois. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez déjà entendu des messages là-dessus. C'est un excellent passage pour illustrer la grâce de Dieu envers un homme pécheur. Un évangéliste peut s'emparer de ce texte et nous expliquer parfaitement l'amour de Dieu, nous expliquer la grâce qu'il y a en David, la grâce qui cherche le pécheur qui est rejeté, qui va le trouver et qui le ramène et qui veut le faire habiter tous les jours à sa table, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, manger tous les jours à la table du roi alors qu'on est fils de Saül, qui était l'ennemi de David, l'ennemi juré de David. Donc on a vraiment un magnifique passage pour expliquer la grâce de Dieu pour tout homme pécheur. Et j'aime beaucoup ce verset 7 qui dit « ne crains rien, car je veux te faire du bien. » Et ça, dans les églises, nous aimons entendre ce genre de paroles « ne crains rien, je veux te faire du bien. » Et nous nous emparons de ces bénédictions quand le Seigneur dit « ne crains rien, je veux te faire du bien. » Et c'est juste et c'est vrai. Jésus le répète sans arrêt « ne crains rien, je suis avec toi, je veux te faire du bien. » Alors nous avons compris que nous sommes ceux qui ont reçu en Jésus-Christ un Sauveur, un Seigneur, et qu'à partir de là, il veut nous faire du bien. Il voulait nous faire du bien avant, mais maintenant que nous sommes pardonnés, purifiés, à plus forte raison, il peut nous faire du bien. Mais il n'y a pas que ce personnage-là de Méphibosheth, il n'y a pas que ce duo dans cette histoire de David qui veut faire du bien à Méphibosheth, et puis finalement, Méphibosheth qui est accueilli à la table du roi. Il y a d'autres personnages. Alors, là, si vous pouvez regarder dans vos Bibles si elle est ouverte, ou sinon un peu de mémoire. Il y a d'autres personnes qui sont citées dans cette histoire, qui montrent que plusieurs personnages sont importants. Qui vous vient à l'esprit, si vous avez retenu quelques noms ? Il y a Tsiba, le serviteur. Il y a Saül, dont il est question, le grand-père. Miché, le fils de Méphibosheth. Ensuite, bon, David, d'accord, il y en a un qui connaît bien David. Hein, David.
Les serviteurs et les enfants de Tsiba.
Alors, les serviteurs et les enfants, donc ça fait du monde. Hein, si on additionnait, ça ferait du monde dans l'histoire. Hein. Il y a encore d'autres personnages. On a vu le grand-père, on a vu le petit-fils, on a vu les enfants du, l'enfant du petit-fils, mais entre les deux, il y a Jonathan. Fondamental, Jonathan. Et il est question, il y a un enchaînement de noms là, que je suis allé creuser un peu pour voir le sens, de ce Makir, fils d'Amniel, à Lodébar. Makir. Il est cité à d'autres, dans d'autres passages, on le verra tout à l'heure. Donc il y a plein de personnages. Vous voyez, quand, si on va au cinéma voir un film, il y a souvent les personnages principaux, mais il y a plein de personnages alentours qui ont quelque chose d'important à nous apprendre sur cette histoire. Et en fait, j'étais dans une église aux États-Unis, et en lisant ce texte-là, d'un coup, mais j'ai eu... Comment dire, une compréhension de ce texte qui respecte ce que je vous dis tout à l'heure, la grâce de Dieu pour le pécheur. Mais en voyant tous les personnages, j'ai vu comme une histoire plus large et à la fois précise que je vais vous partager ce matin. On va voir la grâce de Dieu, bien sûr, parce que c'est ça le fil conducteur, le Seigneur qui veut faire du bien à un pécheur. Mais on va voir que dans cette histoire nous renvoie à d'autres textes du Nouveau Testament. Et c'est intéressant de les partager. Et en fait, ce qui a été le déclencheur de cette compréhension de ce texte-là, c'était le premier verset. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien ?» à cause de Jonathan. Et j'aime bien cette expression « reste-t-il ». Quand on connaît la Bible, ce mot « reste » nous renvoie à plein d'autres choses, non ? Si on va dans le Nouveau Testament, on a la réponse à cette question, justement dans Romains. On peut aller le voir. Alors, je vais parfois citer les versets. Ceux qui aiment vérifier, vous pourrez noter les versets, et vous, certains, on les lira ensemble, d'autres, faites-moi confiance, et vous vérifierez chez vous le contenu, mais là, ceux-là sont importants. Romains 11, 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste. Ah, ça c'est bien ça. Vous lisez les versets en même temps que moi. Donc je peux faire confiance, quand je citerai un verset, poc, il y aura l'effet spécial, tout s'affiche, et donc vous aurez en direct. Alors donc ce que j'ai dit avant était inutile. Donc reste-t-il ? Et on a la réponse dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Oui, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Et c'est intéressant d'associer l'idée du reste à l'idée de la grâce. C'est exactement ça l'histoire de Méphibosheth, et c'est exactement ça l'histoire d'un peuple. Et on peut voir, on peut préciser ça, Romains 9, 27. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. » Dans Romains 9, 27, je crois qu'il est question historiquement du reste après la dispersion. Ceux qui reviennent en reste seulement ont échappé. Après la Shoah, on peut imaginer hein, les millions de Juifs qui sont morts. En reste seulement a pu revenir habiter en Israël. Et donc, il y a cette idée-là d'abord, d'un reste qui revienne dans le pays. Mais dans Romains 11, il est question d'autre chose. D'un reste, non pas de « on revient de la diaspora et on habite dans un pays terrestre », mais d'un reste selon l'élection de la grâce, c'est-à-dire d'un reste qui va bénéficier de la grâce de Dieu. Ceux qui sont revenus en Israël, dans la terre, ne sont pas tous des enfants de Dieu. Certains ont cru, peut-être peu ont cru, mais le reste, selon l'élection de la grâce, c'est autre chose, c'est ceux qui sont sauvés, ceux qui ont reçu leur sauveur Jésus-Christ. Mais bon, j'aime bien ce parallèle qu'on a vu tout à l'heure dans Méphibosheth, David, qui dit « Reste-t-il quelqu'un ?» Et puis dans le Nouveau Testament, cette réponse de Paul, « Il y a un reste selon l'élection de la grâce. » Alors maintenant qu'on a posé ça comme le fil conducteur, on va voir les personnages. Alors j'espère que ça ne fait pas trop compliqué. Enfin, est-ce que j'ai l'air que c'est compliqué ou... Non, ça va. Bon, parce que je ne veux pas... Respirons un peu, on va avancer. C'est pas compliqué, hein. On va avancer maintenant en toute simplicité, personnage après personnage. Là, c'est simple. On va prendre les personnages de l'histoire de Méphibosheth, et on va voir ensemble que ça correspond bien à des choses qu'il y a dans ces trois chapitres, dans Romains, Romains 9, Romains 10 et Romains 11, qui parlent justement très typiquement de la place du peuple juif, d'Israël, dans le plan de Dieu. Est-ce qu'ils sont sauvés, est-ce qu'ils ne sont pas sauvés, est-ce qu'ils sont tous sauvés ou est-ce qu'ils sont tous perdus, et comment ils sont sauvés, etc., etc. C'est ça dont il est question dans Romains 9 à 11. Et cette histoire, elle illustre en fait ces vérités qu'on trouve dans Romains 9 à 11. Saül, le grand-père. Qu'est-ce qu'il peut représenter, à votre avis, Saül, le grand-père? Vous savez que Saül, il avait été choisi par Israël pour être le premier roi. Ce n'était pas vraiment le plan de Dieu à l'origine. Dieu ne voulait pas qu'ils aient de roi. C'était une pratique des nations d'avoir des rois. Et Dieu disait, non, je veux être moi, votre roi, je vous suffis. Et ils ont dit, non, ça ne nous suffit pas, il nous faut un roi, comme les nations. Il dit, ok, je vais vous donner un roi. Et lequel vous voulez? Ah, Saül, il est grand, il est beau. Ok, on a pris Saül. Et on a vu par la suite qu'il a eu des bons commencements. Il a commencé avec humilité. Au début, il se cachait. Il dit non, je ne veux pas être roi. Et puis finalement, quand il est devenu, il y a pris goût, comme beaucoup d'hommes politiques qui prennent goût au pouvoir. Et dans l'exercice du pouvoir, il a commencé à aller trop loin. Et Dieu n'a pas accepté. Dieu n'a pas accepté sa royauté. Il avait accédé à leur demande, ils avaient effectivement un roi, mais lui n'a pas fait ce que Dieu lui demandait. Il lui avait demandé plusieurs choses, je ne vais pas tout vous raconter, vous le savez, mais à cause de sa désobéissance, il n'a pas eu de péché grossier, il a désobéi. Et Dieu a dit, non mais la désobéissance c'est pire que l'idolâtrie, c'est pire que tous les péchés, on ne peut rien faire avec quelqu'un de désobéissant, et il a été rejeté de son rôle de roi. On n'a pas besoin de voir dans cette histoire, alors est-ce qu'il était sauvé, est-ce qu'il n'était pas sauvé? Au début il a bien commencé, mais il a mal fini. Alors c'est pas ça la question. Là, c'est dans ses attributs royaux, dans sa fonction royale, qu'il a été rejeté. D'accord? C'est intéressant parce que Saül peut représenter l'Israël selon la chair. Romains 11, verset 1 dit, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, loin de là. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Son peuple reste dans son plan. Bon, après, je ne peux pas prendre toutes les explications, mais en fait, on voit bien que Israël, dans la chair, n'a pas été rejeté. En revanche, au verset 23, il est écrit, eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, c'est-à-dire greffés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Donc en fait, l'Israël selon la chair n'est pas, il ne suffit pas d'être juif pour aller au ciel. On n'est pas dans le plan de Dieu simplement parce qu'on s'appelle Goldstein, Zilberstein, Ben Soussan. Ça n'assure pas l'entrée au royaume céleste, loin de là. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on est définitivement rejeté. Ah, ça c'est là. J'ai tout entendu sur la question. Enfin, la synagogue de Satan, les Ashkenazes, c'est des Khazars. Enfin bon, il y a des trucs qui circulent sur Internet. C'est incroyable. Le plan de Dieu, c'est de dire, ils ont été mis à l'écart. C'est l'expression qui est prise dans Romains. Leur mise à l'écart, un temps. Et effectivement, si on lit Romains 9, versets 1 à 4... on a cette confirmation, je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites et à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Alors, Paul n'est pas un fanatique de son peuple d'Israël. Vous voyez, il y a des gens qui disent « Ah, ils sont tous parfaits, ils sont tous merveilleux, ils sont tous... » Non, loin de là, Paul connaît son peuple et il est triste pour eux. Il sait qu'ils n'ont pas... Ils ne sont pas dans le plan de Dieu, il a pour eux une grande tristesse, un chagrin continuel, mais à la fois, il dit, c'est quand même à eux qu'appartiennent la loi, l'adoption, etc., etc., toute la liste, c'est eux qui avaient reçu les promesses, et il parle bien là de l'Israël selon la chair. C'est pas l'Israël spirituel, sauvé. Il parle de l'Israël selon la chair, qui sont à la fois hors du plan de Dieu, mais à la fois qui ont toujours, dans la pensée de Dieu, quelque chose qui leur est réservé. C'est l'Israël selon la chair, l'Israël terrestre. Tout leur appartient, mais rien n'est à eux, en réalité. Dans le sens où rien des choses spirituelles, du monde spirituel que Dieu leur réserve. Alors maintenant, passons à Jonathan. Jonathan, c'est le fils de Saül. Donc on pourrait dire, si par le sang, on est l'Israël selon la chair, ben Jonathan en fait partie. D'accord ? Mais la différence entre Jonathan et Saül, c'est quoi ? Vous qui connaissez l'histoire de Jonathan. Hein ? L'amour et la vie. Oui, mais à David. Là, pardon, l'amour pour David. L'amour, tout à fait. Quand il a vu David, il savait que toute sa vie, il aimerait. Son amour était plus grand que l'amour des femmes. Une relation toute particulière. Mais il y a un jour, dans la relation entre David et Jonathan, un jour particulier, où Jonathan va faire une alliance avec David. Jonathan va se démarquer de son père, qui lui veut tuer David, et va prendre position pour David, et finalement, il va établir cette alliance, et David va établir une alliance aussi avec lui. Ils vont s'engager réciproquement, et Jonathan, à partir de là, va être dans le plan spirituel de Dieu, parce qu'il a vu en David celui qui devait régner, qui n'était pas encore roi, mais qui allait le devenir, celui qui allait détrôner justement Saül, sans le vouloir, sans combattre. Et c'est ça la différence entre la postérité, l'Israël selon la chair, et la postérité selon, on va dire, la postérité céleste ou spirituelle. Il était de la chair, il est toujours de la chair, mais il est rentré dans la postérité spirituelle. Vous savez, cette alliance dont il est question, on en a une, nous aussi, qui nous a fait rentrer dans le plan de Dieu. C'est quoi l'alliance qui nous a fait rentrer dans le plan de Dieu ? Est-ce que c'est celle avec Abraham ? Est-ce que c'est... Quelle alliance nous a fait rentrer dans le plan de Dieu ? Le sang de Jésus. Et c'est la nouvelle alliance. Dieu avait fait alliance, une première alliance en Moïse, avec la loi, avec son peuple. Vous lisez le Deutéronome, le Lévitique. Si tu fais ça, tu auras ça. Et si tu fais mal, tu seras puni. Et si tu fais bien, ça n'ira pas. Et cette alliance, nous savons, n'a pas amené les choses à la perfection. Son peuple n'a pas réussi à suivre Dieu, a même désobéi. Vous lisez la Bible, vous voyez bien l'incrédulité, la dureté, et tout ce que vous voulez. Et le constat du Nouveau Testament, c'est de dire ils n'ont pas réussi. Cette alliance-là n'a pas amené les choses au point où elles devaient arriver. Alors Dieu a fait une nouvelle alliance. Et on se dit, nouvelle alliance, ah, ça c'est nous. Oui et non. Oui, nous entrons dans cette nouvelle alliance. Mais lisons dans le prophète Jérémie, quand elle a été prophétisée, quel était le plan de Dieu pour cette alliance ? De nous faire rentrer dans le salut ? Oui. Et à la fois, je vais dire, en même temps, il y a autre chose qui est écrit. Regardez dans Jérémie, chapitre 31, verset 31. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » On a bien lu ce qu'il y a écrit « Je fais une alliance avec les chrétiens » avec le peuple du Nouveau Testament. Il dit, je fais une alliance, une nouvelle, avec la maison d'Israël et la maison de Juda, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans de eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui à son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est ça qui fait qu'on peut devenir un enfant de Dieu, de croire dans cette nouvelle alliance, dans le sang du Messie, dans le sang qui a été versé pour les péchés. Mais premièrement, cette alliance, Dieu l'avait contractée avec Israël. Et nous sommes rentrés dans cette alliance. Les nations, les croyants de toutes les races et de toutes les ethnies qui ont cru en Jésus-Christ sont greffés, rentrent dans cette alliance et bénéficient de toutes les bénédictions qui étaient prévues par Dieu. Voilà le plan de Dieu. Ça a l'air si simple. Et pourquoi on se complique la vie des fois en disant « oui, mais c'est nous, c'est eux ». Voilà le plan de Dieu tel qu'on le trouve écrit clairement dans Romains 9 à 11. Alors, on va revenir maintenant un peu à des choses d'édification. David, si on a vu Saül, si on a vu Jonathan, on l'a déjà dit, mais répétons-le parce que ça vaut la peine de le dire. David est, ou représente, c'est vous qui le direz, sinon je m'arrête. Hein ? Christo. Ou Jésus, Jésus-Christ. Voilà, le Christ, c'est le Messie. Jésus, c'est son nom. Yeshua, en hébreu, c'est Jésus. Voilà. Et David, dans la pensée juive, ça, on le sait, c'est pas le David qui est mort à cette époque-là. On le retrouve dans le Nouveau Testament, quand vous voyez par exemple ces deux aveugles qui l'entendent passer, ils disent « Ah, fils de David, fils de David !» Ils avaient compris, c'est lui. Fils de David, ça veut dire le Messie. Donc David représente Jésus-Christ, le bien-aimé, le fils du Père, le roi glorieux, mais celui qui cherche à faire du bien. Celui, intéressant, qui cherche celui qui se cache, celui qui fuit, qui dit pas, bon, ben, s'il n'est pas là, tant pis pour lui, il avait qu'à être là. Il n'a qu'à venir. Non, il le cherche, il le voit loin, il le voit privé de tout ce qu'il voulait lui donner, et il se dit, je vais aller à sa rencontre, je vais le chercher. Et c'est pour ça que j'aimais bien les phrases de David tout à l'heure pour Méphibosheth, est-ce qu'il reste quelqu'un? Et Tsiba dit, oui, il y a quelqu'un. Où est-il? Ben voilà, c'est ça, Jésus-Christ, il est celui qui veut nous faire du bien, qui veut faire bénéficier à ses enfants, aux chrétiens, du bien, qui veut faire bénéficier de sa bonté à Israël, selon la chair, qui veut faire bénéficier de sa bonté à toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le même. C'est le même qui choquait un tout petit peu quand il était sur terre et il disait non, ceux-là, ils sont des nations, c'est des gentils, je suis là, venu que pour la maison d'Israël, pour les brebis perdues d'Israël. Il l'a dit à deux reprises dans son ministère terrestre. Il était venu pour les brebis perdues d'Israël. Et vous êtes comme moi, choqués par ce passage où la veuve arrive et il y a cette histoire de miettes de pain, elle est prête à ramasser les miettes. C'est un peu choquant, mais c'est quand même le même David, c'est ce même Jésus-Christ dans le Nouveau Testament qui ose agir comme ça. Mais qui ensuite, avant de remonter auprès du Père, va dire aux apôtres, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, est-ce qu'il a changé d'avis? Est-ce qu'il se dit, oh, finalement, non, les brebis perdues d'Israël, j'en ai assez, je passe à autre chose. Ce ministère-là, ça ne marche pas très fort. Il y a plus de potentiel avec les nations. C'est pas ça. Son plan est toujours le même. Il dit, d'abord à Jérusalem, ensuite, vous élargissez, et vous allez jusqu'aux extrémités de la terre. Et bien sûr que dans son plan, pour Israël, il voulait atteindre les nations. Et même à leur détriment, les Juifs, on transmet jusque dans les nations la parole de Dieu. Vous allez dire, mais ce n'est pas les Juifs qui ont fait ça, c'est les chrétiens qui l'ont fait. Oui, mais c'est des Juifs aussi, parce que regardez ce que vous avez comme Bible. Tout ce qui est écrit a été écrit par des Juifs, quasiment. Alors après, des chrétiens, bien sûr, l'ont transmis, mais bon, c'est des petits détails. Mais tout à l'heure, on a lu que même, selon l'Israël de la chair, le Messie est issu. Alors nous aimerions un Messie, mais nous n'aimerions pas ceux de sa famille Si vous avez des amis, vous avez quelqu'un que vous aimez beaucoup qui vous présente sa famille, vous dites, ah, toi je t'aime bien, mais alors ta famille ne m'en parle pas. C'est bien d'avoir des beaux-parents charmants qu'on aime beaucoup. Des fois, ils ne sont pas toujours charmants. N'empêche que c'est nos beaux-parents, on les aime. Voilà. Par fidélité à David, on devrait aimer sa descendance. Alors voilà, David veut faire du bien, ça c'est son plan. Il veut chercher s'il le faut. Ceux qui se cachent, ils ne sont pas ici aujourd'hui, ben, allons les chercher. Ah ouais, mais il n'y en a pas ici. Allons les chercher. On les trouvera si on les cherche. Alors venons-en à Méphibosheth maintenant, parce qu'il est quand même celui qui nous intéresse tout particulièrement, on s'y retrouve un peu. Ben Méphibosheth, finalement, pourquoi David le cherche? Il l'a dit dans le texte. Hein? Il veut lui faire du bien, c'est vrai, c'est son but, mais, comme tu le dis, dis-le plus fort,
à cause de Jonathan.
À cause de Jonathan. À cause de l'engagement qu'il a pris auprès de Jonathan, il lui a dit, quand ils ont fait cette alliance, il lui a dit, je t'inquiète pas, tous ceux de ta famille, j'en prendrai soin, je les protégerai. Et David n'a pas touché Saül. David n'a tué personne de la maison de Méphibosheth. David est allé chercher le seul qui restait. Et celui qui restait, il n'était pas au top. Hein. Bon, il était maudit. Parce que la maison de Saül a été maudite par Dieu. Donc, l'Israël selon la chair, effectivement, est sous une condamnation. Ça aussi, il ne faut pas oublier. Alors, une condamnation toute particulière pour eux, parce qu'ils sont juifs, selon la chair. Ben, lisons simplement Romains. Romains chapitre 2, verset 9. Elle n'est pas particulière, cette condamnation. Elle est biblique. Tribulation. Et angoisse sur tout homme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Tout simplement. Simplement parce qu'on est homme, qu'on soit juif ou non juif, simplement parce qu'on fait le mal, on est sous la condamnation. Tribulation et angoisse, simplement parce qu'on fait le mal. Et les juifs aussi. Voilà, excusez-moi d'employer sans arrêt ce mot, mais... Parce que c'est un peu le thème. Les juifs sont ni meilleurs ni pires que les autres. Ils sont pécheurs. Et c'est ça que dit le Romains 9 à 11. Ne croyez pas que parce qu'ils sont juifs, ils sont sauvés. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Des choses leur appartiennent, des choses terrestres, des bénédictions et tout ce que vous voulez, mais ils ne vont pas au ciel simplement parce qu'ils sont d'origine juive. Parce qu'ils font le mal et que comme tout homme est pécheur, israélite inclus, ils sont sous la condamnation. Et dans Jean 8, chapitre 8, verset 24, il est dit, mais si vous ne croyez ce que je suis, c'est Jésus qui parle, vous mourrez aussi dans vos péchés. Donc il faut croire que Jésus est le Messie. Parfois on aime exagérément, et j'entends des drôles de choses, qui disent, ah oui, mais ils ont la loi, ils peuvent être sauvés par la loi. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Oui, mais dans la loi, il y a le plan du salut. D'accord. Mais s'ils ne croient en Jésus-Christ, ils ne sont pas sauvés. S'ils ne croient pas en lui, ils ne peuvent pas être sauvés. Tout en ayant la loi, tout en étant proche, tout en ayant compris des choses, tout en enseignant plein de choses aux autres, s'ils ne croient pas que Jésus est le Messie, et même qu'il est Dieu, ils ne peuvent être sauvés. C'est Romains 8, 24, je ne sais pas si c'est apparu en même temps, non ? Il dit, si vous nous croyez, littéralement, si vous ne croyez que je suis, c'est pas ce que je suis. Dans le grec, c'est si vous ne croyez que je suis. On le voit là. Romains 8, non, Jean 8, 24, pardon. Jean 8, 24. Quand Jésus parlait avec les Juifs, justement. Et voilà, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, là on a mis le ce pour la compréhension, mais dans le grec, c'est si vous ne croyez que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Je suis, c'est quoi? C'est le nom de Dieu. C'est l'Éternel. Je suis. Et donc quand il dit ça, il n'est pas en train de dire, si vous ne croyez que je suis le fils de David, il dit, si vous ne croyez que je suis Dieu, vous mourrez dans vos péchés. Il faut le croire aussi. Et des fois même les chrétiens remettent en question l'idée qu'on a besoin de croire que Jésus est Dieu, et ils se contenteraient, oui, il est mort sur la croix, il est ressuscité, ça me suffit. Il faut croire qu'il est Dieu. Sinon on est encore dans ses péchés. Sinon, il ne peut pas nous sauver. Donc, Méphibosheth, il est maudit, en quelque sorte, dans la chair, comme tout homme, mais il est aimé à cause de Jonathan, à cause de ses pères. Romains 11, 28. Là, on est revenu dans Romains. Alors, est-ce qu'il est apparu le verset ? Voilà, en ce qui concerne l'évangile, intéressant. Ils sont ennemis. Donc là, on parle bien de ceux qui ont rejeté l'évangile. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis. D'accord. À cause de vous. Donc, à cette époque-là, ils persécutaient ceux qui voulaient annoncer l'évangile. Ils les poursuivaient. Ils étaient terribles, ceux-là. Ceux qui étaient ennemis. Mais les mêmes, en ce qui concerne l'évangile, en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. À la fois profondément ennemis à cause de l'évangile, à cause même des gens qui persécutaient, et les mêmes toujours aimés à cause de leur père. Pas parce qu'ils sont gentils, pas parce qu'ils sont intelligents, pas parce qu'ils sont beaux. On a l'exemple de Méphibosheth. Ils sont sous la condamnation parce qu'ils sont pécheurs comme tout le monde. Ils sont même, on pourrait dire pour certains, super pécheurs, parce que même ils persécutaient les chrétiens, mais on n'a pas un magnifique exemple avec l'apôtre Paul. Est-ce qu'on n'a pas pire persécuteur de l'évangile que l'apôtre Paul ? Et est-ce que cet apôtre Paul, il n'était pas quand même aimé tout en persécutant, et qu'ensuite il ne s'est pas converti, et qu'ensuite il n'a pas servi le Seigneur ? Alors est-ce qu'on doit attendre que les gens soient charmants, bienveillants, ouverts, disponibles, compréhensifs, aimant la vérité plus que tout pour leur annoncer l'évangile et pour espérer qu'ils soient sauvés? Ils peuvent être vos pires opposants et continuer à être aimés. Est-ce que quand on s'oppose à notre témoignage, ça nous énerve et on se dit, bon ben voilà, maintenant, je secoue la poussière de mes pieds, j'ai essayé, il est pas sympathique, il n'en veut pas, il ne m'aime pas, il s'oppose à moi. Est-ce qu'on doit s'arrêter là? Est-ce que Dieu s'est arrêté là avec Paul? Est-ce que Dieu s'est arrêté là avec nous? Est-ce qu'il s'est arrêté là avec moi? Je peux vous dire que il a insisté, qu'il a cherché, que quand je m'intéressais absolument pas à lui, quand je vivais dans le péché, quand je m'intéressais qu'au sport, à la vie terrestre, il me cherchait, il voulait me faire du bien, et il le faisait aussi pour vous. Est-ce que c'est parce qu'il voyait, un jour il sera prédicateur, alors avec lui je vais insister parce qu'il pourra me servir plus tard. Ce n'est pas ça la question. Il a insisté avec chacun de nous ici. Parce qu'il voulait nous faire du bien, simplement. Parce qu'on pourrait dire, grâce à nos pères, qu'ils soient d'origine juive ou nos pères dans la foi chrétien, on est aussi aimé à cause des apôtres, on est aussi aimé à cause de ceux qui ont cru avant nous. Je me suis dit, mais qui c'est qui a prié pour moi pour qu'un jour je me convertisse? Parce que dans ma famille, je ne sais pas qui a prié. Mais des gens avant moi, sans doute, on fait ce qu'il faut pour qu'un jour je reçoive l'évangile. Ils m'ont aimé à l'avance. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont peut-être écrit, ils ont peut-être distribué, ils ont peut-être prié à l'avance pour les générations à venir. Et j'en fais partie. On est aimé à cause de gens qui nous ont aimés. On est aimé à cause de Christ qui nous a aimés. Peut-être on peut lire même ce verset dans Jean chapitre 17, verset 20. C'est intéressant. Jean, chapitre 17, verset... Non. 17, verset 20. À Marseille, c'est pareil, on a ça. Et après, c'est comme c'est la facilité pour moi, je laisse faire plutôt qu'aller chercher moi dans ma Bible. Hein. C'est ça la facilité, c'est ça. C'est... Jean 17, verset 20, donc, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Verset suivant. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, etc., etc. Bon, il y a l'idée de prier pour ceux qui sont à venir, ceux qui doivent croire. Et dans Romains 11, 28, peut-être on peut le lire, ça établit vraiment la chose. Romains 11, 28. Mais c'est celui qu'on a lu tout à l'heure ? On l'a déjà lu, pardon. Non, c'est ça. Voilà, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis, mais ils sont aimés à cause de leur père. aimés à cause de leur père. Alors Mephibosheth était tombé par terre, sa nourrice l'avait laissé tomber, c'était pas sa faute. On ne peut pas dire, ah, tu vois, tu es dans cet état parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Il était bébé, il est tombé, et il est tombé sur ses pieds, il est perclus des pieds. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Ce n'est pas dans le langage courant, perclus. Si vous voyez quelqu'un, tiens, tu es perclus toi? Perclus? Ah bon? Mais perclus, on a compris qu'il boite. Il est devenu handicapé, il souffre des pieds, il ne peut pas marcher droit. Et c'est le principe, c'est tout. C'est qu'il ne peut pas marcher droit. Est-ce qu'on n'a pas une illustration parfaite de ce que c'est qu'un pécheur qui n'a pas besoin d'avoir décidé un jour, tiens, je vais devenir désobéissant, rebelle et pécheur. Je plaisante un tout petit peu, mais j'ai une de mes filles là, 14 ans, bon, elle commence à vouloir se distinguer un peu, à me dire non à des choses. Enfin, bon, elle le disait, mais pas ouvertement, elle le faisait, bon. Mais l'autre jour, je dis quelque chose, elle me dit, ah ben non. Et alors, je lui dis, tu sais, tu n'as pas besoin de me dire non, de t'opposer à moi pour exister. On croit qu'on se met à exister par l'opposition. Et c'est ce qu'enseignent les psychologues d'ailleurs. Hein, le non, on vous dit à 3 ans, l'enfant, il apprend à exister psychologiquement en s'opposant à ses parents. C'est ce qu'on nous apprend aujourd'hui en psychologie. Mais je ne crois pas qu'on a besoin d'exister, qu'on n'existe pas plus par l'opposition que par l'obéissance. Si l'obéissance est choisie, si elle est volontaire, on existe. On n'est pas rien parce qu'on a décidé de se soumettre. Est-ce que Christ, à Gethsémané, quand il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté, est-ce qu'il devenait rien, il n'existait plus? Au contraire, il avait toute sa volonté, toute sa personnalité. Mais il choisit volontairement d'obéir. Donc, on ne choisit pas, on n'a pas besoin de choisir d'être pécheur, rebelle, désobéissant, on l'est naturellement. Et incapable de marcher droit. Alors la loi, quand elle nous dit « marche droit » et qu'on n'y arrive pas, « marche droit » et on n'y arrive pas. Imaginez, si l'évangile, si ce que j'avais à vous prêcher aujourd'hui c'était « faites ci et faites ça et faites pas comme ci et faites pas comme ça », qu'est-ce que vous en pensez au bout d'un moment? Mais j'y arrive pas. Mais on va continuer parce que c'est la meilleure loi. Et c'est ce que proposent les religions. Voilà. Et c'est ce que font les juifs, continuant à vouloir obéir à la loi et n'y arrivant pas. Les musulmans, quand vous discutez au fond avec eux, c'est nous qui avons la bonne pratique, c'est nous qui avons le Coran, c'est nous qui avons tout ce qui est bon, c'est nous qui avons raison. Alors je dis, alors est-ce que tu fais tout ce qu'il faut? J'ai jamais vu quelqu'un, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dise, oui, j'ai fait tout ce qu'il faut. Non, tout le monde sait qu'on n'arrive pas à faire ce qu'enseignent les religions. Même Jésus, même le Nouveau Testament, quand il dit « soyez parfaits comme le Père est parfait ». Alors oui, alors on relativise, oui, il veut dire ça. D'accord, mais n'empêche qu'il y a plein d'exigences dans les Écritures. Quand il est écrit, même tout simplement pour l'amour fraternel, « aimez-vous gentiment quand vous avez un repas fraternel ?» Aimez-vous d'un amour ardent. Est-ce que vous aimez les frères et les sœurs de l'Église d'un amour ardent? Ardent. Les mots sont forts, hein? Pas oh, si on s'entend bien, oh, si on s'aime, quand on a des bons moments, on s'aime. Amour ardent. Quand vous lisez pour le couple, mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire donnez-vous tout entier pour elle. Est-ce que nous aimons nos femmes, notre femme, ainsi? Excusez-moi, mais le Nouveau Testament, si ce n'est par la grâce de Dieu, est très décourageant aussi. Si vous ne trouvez pas la grâce de Dieu, si vous ne reconnaissez pas votre incapacité à faire ce que le Seigneur nous demande de faire, même dans les épîtres, bon, on a une religion chrétienne, on a du judaïsme chrétien. On n'a pas mieux que les autres. Si se réunir aujourd'hui, c'est pour savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que j'ai à faire. Oui, le Seigneur nous montre des choses à faire, mais d'abord, il veut nous montrer qu'on est comme Mephibosheth. Et Mephibosheth, quand finalement David l'appelle, il ne dit pas « Ah ouais, chouette, je vais y aller, il va reconnaître, il va me mettre à côté de lui. » Il a peur d'y aller, et c'est ce que bien David lui dit. Il lui dit « Mais ne crains pas, ne crains pas, il doit le voir tout tremblant, Mephibosheth. Mephibosheth sait que son grand-père a persécuté David. Donc il ne s'approche pas fanfaronnant. Et quand David lui dit « je veux te faire du bien », même quand il comprend la bonté de Dieu à son égard, là encore il dit « mais je suis qu'un chien mort ». Vous comprenez ce que ça veut dire, l'expression ? Un chien au Proche-Orient, c'est celui qui ramasse les miettes, qui mange les cochonneries par terre. C'est pas comme chez nous, il n'a pas des croquettes sans gluten. Un chien, c'est rien là-bas. C'est rien, on ne se soucie pas. Si on a un qui meurt, eh bien on le pousse du... C'est rien. Mais en plus, pire que ça, un chien mort, on ne touche pas un mort en Israël. Mais un chien mort, alors là, vous avez le top des top. On dirait qu'il fait il veut impressionner tout le monde, mais non, il est convaincu de ça. Il dit, je ne vaux rien. Tu me veux à ta table, tu veux me faire du bien à moi, qui suis pécheur, qui ne marche pas droit, qui suis rien. Et David dit, oui, je t'aime, à cause de Jonathan, je te veux avec moi. Tous les jours à ma table, viens, à la table des fils du roi. Un chien mort à la table des fils du roi. Vous savez, dans la loi de Moïse, un infirme ne pouvait pas rentrer dans le service. Un eunuque ne pouvait pas rentrer, un lépreux était rejeté. Catégoriquement, ça c'est la loi. Quelqu'un qui dit « je ne marche pas droit », inapte au service. Tu ne viens pas dans le temple, tu ne t'approches pas. Aujourd'hui on dira « comment, ségrégation ?» Dieu l'a dit ainsi. Et effectivement, un boiteux, un infirme ne rentre pas dans la présence de Dieu, enfin un boiteux spirituel. Sauf s'il vient à la porte et qu'il dit « entre, je le veux, à cause de tes pères, à cause de Jonathan ». Et c'est comme ça qu'on est reçu, c'est comme ça que Mephibosheth est reçu, c'est comme ça que les apôtres sont reçus, c'est comme ça que juifs et non-juifs sont reçus, pas autrement, par grâce, parce que Dieu nous aime. Et qu'en David, en Jésus, il veut nous faire bénéficier de la bonté de l'Éternel. Alors, on pourrait développer beaucoup de choses autour de tout ça. Pourquoi les Juifs se sentiraient plus ou moins coupables? Bon, il y a la loi, il y a la Shoah, il y a plein de choses. Mais ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est aussi Makir. Ce Makir. Qui est ce Makir? C'est quelqu'un, quand il était rejeté, condamné, qui le prend chez lui. Makir représente les justes. Enfin, vous savez, il y a cette expression dans le judaïsme. Les justes sont ceux qui, pendant la guerre, par exemple, quand les nazis voulaient les emmener, qui les cachaient, qui mettaient en péril leur propre foyer, leur propre vie, pour les protéger, qui les prenaient avec eux, parce que ça leur était insupportable de savoir que des gens pouvaient être emmenés simplement à la mort sans qu'on vienne à leur côté. Des Makir, il y en a eu. Des maquirs qui mettent à leur disposition leurs biens matériels, il y en a eu, il y en aura encore. Il y a des nations pendant la guerre qui ont pris position. Il n'y en a pas beaucoup, mais le roi du Danemark l'a fait. Après la guerre, les États-Unis l'ont fait. Les États-Unis sont devenus la première nation au monde qui a accueilli les Juifs en grand nombre. Avant qu'il y ait Israël, qui est une terre... Ben, vous savez qu'il y avait il y a à peu près 7 ou 8 millions de Juifs aux États-Unis. Ben, parce qu'après la guerre, en masse, ils sont venus aux États-Unis. Après, ils ne voulaient plus entendre parler de l'Europe. Et on peut le comprendre. Ceux qui leur ont fait du bien, Dieu l'a vu. Et Dieu fera du bien à ceux qui leur ont fait du bien. Et ça, bon, je ne vais pas plus le développer. Mais je voudrais terminer maintenant avec, après avoir vu Makir, Tsiba. Voilà. Tsiba. Tsiba, c'est celui que Dieu va envoyer pour aller chercher Mephibosheth. David n'a pas dit « apprêtez mon char, je vais y aller moi-même ». Notre Seigneur Jésus-Christ est là-haut dans la gloire, il est assis, et aujourd'hui il cherche des gens qui vont le faire pour lui, des Tsiba. Des serviteurs, simplement. Des serviteurs qui vont les chercher, qui vont savoir où ils sont, qui vont se renseigner et qui vont y aller. C'est ce que le Nouveau Testament nous dit, voilà. Bon, c'est intéressant, l'apôtre Paul était appelé vers qui? Quel était là? Parce qu'on a des appels chacun particuliers, il faut le reconnaître. on a des champs assignés différents, on a des dons différents. Et l'apôtre Paul était appelé auprès des païens. Il n'était pas appelé auprès des juifs, Paul. Son appel, c'était d'aller vers les païens. Et pourtant, vous regardez son ministère, il allait toujours d'abord à la synagogue. Et Romains 10, verset 1, bon, puisqu'il apparaît au-dessus de ma tête, il est en train d'apparaître. Romains 10, verset 1. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Voilà. Alors c'est un sujet sensible un peu Israël, ils sont méchants avec les Palestiniens, ou il se passe des choses, ou la finance, la conspiration, on entend de tout. On entend de tout. Il y a la banque Rothschild, c'est sûr, mais il y a d'autres banques qui ne sont pas Rothschild. Ce qui compte et ce qui nous importe, c'est quoi? C'est Romains 10, 1. Vous voulez qu'il soit gentil? Vous voulez que... Qu'est-ce qui nous intéresse? Mon vœu, ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Pour eux, comme pour tous ceux qui nous entourent. Et on pourrait élargir ça à ceux qui font trembler l'Occident. Plus d'un milliard de musulmans sur Terre, ils sont pas gentils avec nous, hein. C'est vrai. Enfin, avec nous, ils. Le terrorisme, la pression dans les pays islamiques où les chrétiens, on ferme leurs églises, on ferme des églises à tous les endroits. D'accord. N'attendons pas que les gens soient gentils pour les aimer et pour vouloir qu'ils soient sauvés. Est-ce que les gens nous énervent plus que ce qu'on a envie qu'ils soient sauvés? Est-ce qu'il nous repousse plus qu'on a envie, malgré tout? C'est repoussant quand même, reconnaissons. Enfin, cet homme-là qui est chez Makir, qui est rejeté de la famille de Saül, c'est pas très net cette histoire. Et en plus, il est perclus des pieds, on n'aime pas beaucoup les gens comme ça. Qu'est-ce qu'on attend pour prier pour les gens qui sont les pires ennemis de l'Évangile aujourd'hui? Aimer à cause de leur père, aimer pour ceux qui ont cru, aimer parce que Dieu les aime. Voilà, alors, à la question, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Oui, il reste aujourd'hui encore, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Oui, la Bible l'établit clairement, et c'est ce reste qui nous intéresse. On peut aimer tout le monde, ou avoir du mal avec certains, mais on doit chercher le reste, ceux qui sont aimés. Alors, il faut des maquires, peut-être, pour aider matériellement, faire des choses concrètes. Il faut des tzibas qui vont y aller, d'autres qui ne vont pas y aller. Il en faut. En tout cas, notre but, c'est aux pires ennemis de l'Évangile, qu'ils soient juifs, musulmans, hindouistes, bouddhistes, athéistes, tout ce qu'on veut. On veut leur faire bénéficier, leur montrer la bonté de Dieu. Voilà. C'est ça notre message, hein? Non? C'est pas de dire voilà les gentils, voilà les méchants. On n'est pas les gentils. Ils sont pas les méchants, on est tous méchants. On n'est pas ceux qui ont raison, on est juste ceux qui ont été aimés et sauvés par grâce. On n'a que ça à dire, hein? C'est ça qui nous a sauvés, non? Quand on nous parle de la grâce de Dieu, c'est pas qu'on nous a dit que la loi de Moïse est la meilleure. C'est la grâce de Dieu. On n'a pas besoin de tout connaître. Si on sait qu'on est pécheur, perclus des pieds, si on reconnaît qu'on est incapable, on peut connaître la grâce de Dieu. Je vais terminer avec un chant.